qu'un pécheur, quelle qu'ait été la gravité de son crime, peut toujours, si son repentir est sincère, être pardonné. Je le ferai châtier, a dit Pilate. Ce châtiment, selon la tradition de Rome, aussi bien que celle d'Israël, c'est le fouet. Pilate a-t-il cru que les prêtres se contenteraient de cette punition cruelle ? La flagellation précède obligatoirement toute mise à mort. Brutalement, on arrache à Jésus ses vêtements. On l'attache par les poignets à une colonne ou à un mur, les bras tirés vers le haut. L'instrument du supplice, le flagellum, un fouet en manches courtes, aux manches courtes, auxquelles sont attachées des lanières longues et épaisses. Pour que les coups soient plus douloureux, pour qu'ils déchirent mieux la peau et la chair, on attache aux extrémités de ces lanières des balles de plomb ou des osselets de mouton. Et les coups s'abattent sur Jésus. Selon la loi juive, ils ne doivent pas dépasser le nombre de 40. Le droit romain ne fixe aucune limite. Il faut simplement veiller à conserver vivant le condamné. Il arrive néanmoins, dit le poète latin Horace, que le supplicié soit déchiré par les fouets à en dégoûter le bourreau. Les coups ont commencé à entamer son dos, ses hanches, sa nuque. Chaque fois que le fouet s'abat, une douleur fulgurante assaille le supplicié. La douleur, selon le témoignage d'un homme qui eut à subir cette peine, part du cou, descend jusqu'à l'extrémité des orteils, irradie jusqu'aux ongles des doigts, traverse le cœur comme si l'on avait planté un couteau dans le corps. L'intervalle entre les coups est d'une longueur angoissante. Le sang monte à la bouche, jaillissant des poumons ou de quelques organes internes déchirés par les contractures provoquées par l'atroce douleur. Tout cela, l'homme Jésus le subit. Le même qui, quelques heures plus tôt, suppliait son Père d'éloigner de lui ce calice. Le pire, peut-être, c'est que cette horreur s'accompagne non seulement de l'indifférence de la foule, mais de sa joie. Le nombre obligé des coups est atteint. Enfin, le bourreau abaisse pour la dernière fois son bras lassé. On détache Jésus, il titube. Mon Père, autour de lui, sur le dallage, des gouttes de sang forment peu à peu une flaque. Va-t-on un seul instant le laisser en paix ? Mais non. Quelqu'un s'écrie tout à coup, « S'il est le roi des Juifs, il lui faut une couronne, un fagot de branches épineuses maintenu en cercle par des joncs tordus fera l'affaire. On la lui enfonce sur la tête à coups de bâton. Les épines déchirent la peau du crâne. Le sang coule en longues traînées sur la face défigurée par la souffrance. Il jaillit sur ce dos qui n'est plus qu'une plaie, une bouillie de chair sanguignolante. » Pilate s'avance vers la foule, toujours massée à l'extérieur de l'Antonia. Il ordonne qu'on fasse avancer Jésus. On le traîne, on le pousse, titubant, jusqu'à lui. Le procurateur le montre à la foule et il dit « Voici l'homme ». En latin, cela se dit « esse homo ». Je vous conseille de retenir ces deux mots. Ils figurent parmi les plus célèbres de l'histoire. L'image offerte de cet homme à demi-nu couvert de sang, au-delà de toutes les douleurs, est si affligeante, si pitoyable, que Pilate peut croire encore que la foule fera taire sa haine en disant « Voici l'homme ». Il a voulu signifier « Voyez à cause de vous ce que l'on a fait de lui ». Quelle erreur ! Une clameur lui répond « Crucifie-le, crucifie-le ! » Que pourrait-il tenter de plus ? Il ressent cet homme-là comme une énigme. Comment ces prêtres et ces scribes aux traits grimaçants peuvent-ils lui reprocher de se prétendre roi des Juifs ? Et comment ce pauvre air peut-il affirmer qu'il est le Fils de Dieu ? Longuement, le procurateur cherche, dans les yeux de Jésus, à lire le secret de tout cela, au-delà des traces de coups, au-delà du sang qui coule. Ce qui le trouble, c'est ce regard si assuré, si noble, celui d'un être dont rien n'a entamé la certitude, quand il disait « Je suis la vérité ». Voulait-il vraiment parler de la vérité de Dieu ? La question que Pilate va alors poser à Jésus est très extraordinaire, jugez-en. « D'où es-tu » demande-t-il. Ceux qui ont entendu Pilate ont cru qu'il ne voulait que s'assurer de l'identité du prisonnier, savoir si Jésus était originaire de Nazareth ou de Bethléem. Ne croyez-vous pas plutôt que Pilate, l'espace d'un instant seulement, a dû se demander si l'homme qui était devant lui appartenait bien à notre monde? D'où es-tu? Pas de réponse. Pilate s'irrite et s'attriste en même temps. Cet homme ne veut-il pas comprendre qu'il va mourir, qu'il ne lui reste qu'un seul recours, un seul défenseur, lui, Pilate? Il insiste. Tu ne veux pas me parler? Ne sais-tu pas que moi seul ai autorité pour te libérer? Que je puis, si je le veux, te condamner à être crucifié? Aucune crainte sur ce visage qui se tourne vers lui. Aucun orgueil non plus, mais une incroyable noblesse. Et le ton de ce prisonnier qui répond est celui, non d'un esclave qu'on vient de fouetter, mais d'un maître. Tu n'aurais aucune puissance sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Non seulement Jésus ne saisit pas la frange fragile que lui tend Pilate, mais c'est une leçon qu'il lui donne. Comment le procurateur pourrait-il concevoir que Jésus veut mourir ? Il le veut parce qu'il le doit, parce qu'il est écrit qu'il donnera sa vie pour tous ceux que leur faiblesse ou leur oubli ont poussé à faire le mal, parce que son sang répandu sera offert en sacrifice afin de sauver le monde. C'est cette certitude qui illumine le regard de Jésus. C'est elle qui est à l'origine des obsédantes questions que se pose Pilate. La foule va se charger de couper court aux états d'âme du procurateur. Avec plus de hargne encore, elle hurle toujours « Crucifie-le, crucifie-le !» Une ultime tentative de Pilate. « Crucifierai-je votre roi ?» Des voix tonnes qui réduisent l'argument à néant. « Nous n'avons d'autre roi que César !» Que d'habileté dans cette réponse. Elle rappelle tout à coup à Pilate la mission qu'il tient de l'empereur et des dangers qu'il peut encourir. Ces juifs ne veulent pas reconnaître un roi en Jésus parce qu'il se proclame sujet de Tibère. Pilate peut-il refuser de leur donner raison sans s'exposer à passer pour un traître aux yeux de Rome? Alors, dit l'Évangile, Pilate leur livre à Jésus pour qu'on le crucifiât. Il se fait apporter un bassin rempli d'eau, il plonge les mains et longuement les lave. Il s'écrie « Je suis innocent du sang de ce juste ». Depuis ce jour, l'expression « s'en laver les mains » signifie que l'on refuse de s'associer à un acte que l'on réprouve et dont on ne se sent pas responsable. Ne croyez pas que le supplice auquel Jésus vient d'être condamné soit exceptionnel. Le monde romain vit à l'ombre de la croix. La crucifixion est le supplice des déserteurs, des voleurs, des rebelles, des esclaves. Après la révolte des esclaves en Italie du Sud, celle qu'a conduite Spartacus, on a dressé au long de la route de Capoue à Rome 6000 croix quand les Romains, en l'an 70, s'empareront de Jérusalem, ils crucifieront jusqu'à 500 juifs par jour. À Jésus, on a rendu ses vêtements, sa tunique qui vite se teintera de sang. Maintenant, la croix l'attend, cette croix que la loi l'oblige à porter. Ce que les condamnés devaient traîner devant eux n'était qu'une des barres de la croix, la barre horizontale, appelée patibulum, que l'on fixait au moment de l'exécution sur la barre verticale, qu'on appelait le stipe, qui, elle, restait toujours plantée en terre au lieu habituel du supplice. Cette poutre, ce patibulum, d'un poids de 50 kilos environ, il est d'usage que le condamné la porte tantôt sur la nuque, tantôt sur l'épaule. Ira-t-il jusqu'au bout, Jésus ? 50 kilos sur ce corps qui a perdu tant de sang, sur ses épaules déchirées par le fouet, 50 kilos sur ses pieds nus dans lesquels s'incrustent pierres et cailloux. Nous sommes à la sixième heure, écrit Jean. Donc, entre 11h et midi, l'heure est venue pour Jésus de marcher au supplice, le cortège quitte Antonia. En tête, voici le centurion revêtu d'une cuirasse d'écailles. Derrière lui, les soldats, sous leurs cottes de mailles, encadreront non seulement Jésus, mais deux autres condamnés qui ploient eux aussi pour sous le patibulum, des voleurs coupables d'une attaque à main armée. Au dernier moment, on les a tirés de leur prison pour les envoyer avec Jésus au supplice. Les exécutions en groupe étaient inhabituelles. Tout au long du parcours, les légionnaires romains, sous leurs casques brillants, enveloppés de leurs chamides rouges, assurent le service d'offre, refoulant la foule juive quand elle veut s'avancer pour mieux voir. Une grande foule de peuple, dit Luc, ceux qui ont crié « crucifie-le », bien sûr, des curieux, ceux aussi qui gardent le souvenir du dimanche des rameaux et du grand espoir levé ce jour-là. Quelle déception! Et puis les amis, quelques-uns des apôtres, désespérés, brisés. Parmi eux, il y a Jean, le plus aimé, et puis des femmes. Parmi ces femmes, il y a Marie, la mère de Jésus. Voyez-la, Marie, secouée de sanglots, perdue dans cette foule, escortée par les insultes, pire encore, les moqueries lancées à l'adresse du malheureux qui, à chaque pas, bute, glisse, s'efforce à tenir sa poutre en équilibre, tandis que son souffle d'instant en instant se fait plus rauque, et cet homme est son fils. Là, il l'a vu, lui, cependant qu'il avançait cherchant sa route dans un brouillard de sang. A-t-il deviné, près de sa mère, l'une de ses tantes qui, ne pouvant supporter l'idée de voir sa sœur exposée seule à une aussi effroyable épreuve, a tenu à l'accompagner? Et l'autre Marie, épouse de son disciple Clopas, et Marie-Madeleine, la pécheresse venue à la dernière heure apporter à Jésus le témoignage de son éternelle reconnaissance. On n'exécute jamais à l'intérieur des murs de Jérusalem, c'est au pied de la colline du Gareb, au nord-ouest de la ville, quelques pas après avoir franchi la porte d'Éphraïm, que l'on met à mort les condamnés. Ce lieu, on le désigne par le mot araméen « Golgotha », ce qui se traduit par « crâne ». La butte est en effet nue comme un crâne dégarni. En latin, cela se dit « calvarius », dont nous avons fait « calvaire ». Pour rejoindre le Golgotha, Jésus va devoir parcourir à peu près 600 mètres. Peut-être cette distance, à première vue, va-t-elle vous paraître relativement courte? Réfléchissez que chaque mètre s'est révélé pour Jésus une insupportable épreuve. Ses forces, de minute en minute, l'abandonnent et il faut marcher, suivre les soldats qui s'impatientent, s'exaspèrent et en fait, d'insistance, ne lui adressent que de nouvelles injures et ne lui administrent que des bourrades. C'est trop, il est à bout. Son pied heurte un pavé, lâchant sa poutre, il tombe de tout son poids. Et ce sont de la part des soldats des cris de colère, des reproches, comme s'ils l'avaient fait exprès. Et dans la foule, le cri de sa mère, qui peut-être a voulu s'élancer, que sa sœur ou Jean ont dû retenir. Et Jésus, que l'on remet sur ses pieds, avec quelle rudesse! Et la poutre hissée de nouveau sur ses épaules, avec quelle brutalité! Et la marche qui reprend, deux fois encore il tombera. À la troisième, la soldatesque prend conscience que, si on ne l'aide pas, il n'ira pas plus loin. On réquisitionne un passant, un certain Simon de Cyrène, pour l'aider à porter sa poutre, franchir la porte Éphraïm, gravir la pente du Golgotha. Là, sous le ciel gris, le stipe droit et solide se dessine. Il n'est pas très haut, ceci en vertu d'une nécessité que vous comprendrez aisément. Les bourreaux doivent déposer le patibulum sur le stipe qui, par conséquent, on ne saurait dépasser un peu plus de 2 mètres. Le voilà donc Jésus, au terme de son chemin terrestre, à l'instant où va commencer cet autre supplice, abominable, qui va le faire accéder à la mort. Les bourreaux lui présentent du vin mêlé de myrrhe. Traditionnellement, on agit ainsi avec les condamnés. Jésus refuse, il doit refuser. Brutalement, on le dépouille de ses vêtements. Ce faisant, on arrache l'étoffe de plaies auxquelles elles étaient collées. Nouvelle souffrance. La loi romaine est formelle. Les habits du supplicié appartiennent au bourreau. Ils prirent ces habits, dit Jean, en firent 4 parts, un pour chacun d'entre eux, et aussi sa tunique. C'était une tunique sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, tirons-la au sort. Le voici allongé sur le sol, au pied du stipe, les épaules couchées sur le patibulum. Vite, avec des gestes dont la précision est née de l'expérience, les bourreaux lui allongent un bras. Il étend la main à plat sur le bois, la paume à l'extérieur. Un clou, un long clou carré et pointu posé sur le poignet. Un coup de marteau, une douleur atroce fulgurante. D'autres coups, la main est fichée dans le bois. L'autre bras, l'autre main, l'autre poignet, une douleur identique. Il faut maintenant clouer les pieds. Voilà, on a fait de Jésus un crucifié. Les deux voleurs ont eu droit au même traitement. Ils sont en croix, de part et d'autre de Jésus. Trois corps qui pendent à des croix identiques. Trois corps attachés aux mêmes clous, traversés par les mêmes insupportables souffrances. Comprenez bien ceci, un homme pendu par les mains, sans ses avant-bras, puis ses bras, puis son tronc se contracter de plus en plus, jusqu'au moment où les muscles deviennent si durs qu'ils ne peuvent plus exécuter leur tâche habituelle. C'est le cas des muscles de la poitrine qui, en permettant l'inspiration et l'expiration, produisent la respiration. Très vite, chez un homme crucifié, les poumons s'emplissent d'air qu'ils ne peuvent rejeter. Et c'est par asphyxie, une asphyxie lente, que les crucifiés meurt dans des souffrances horribles. Déjà, voilà qui est motif à désespoir. Que dire alors de ceux qui vont et viennent autour de la croix, de ceux qui, assis à terre, conversent et badinent comme s'ils s'étaient rendus de concert à une partie de campagne? Il les a regardés, Jésus, ces badauds avides de sensations que l'on voit à toutes les exécutions. Ses yeux se sont posés sur ces prêtres accourus pour s'assurer que le Nazaréen détesté n'allait pas échapper à la mort. Il a dû supporter le spectacle de ces soldats qui boivent, mangent, jouent au dé, échangent entre eux de lourdes plaisanteries. Souffrir en public, mourir en public, rencontrer une aussi scandaleuse indifférence, éprouver la curiosité de ces nouveaux arrivants qui se font expliquer pourquoi cet homme a été condamné, qui, découvrant qui il est, l'interpelle en riant. « Et toi qui détruis le temple et devais le rebâtir en 3 jours, sauve-toi donc toi-même, descends de ta croix !» Si pour échapper à cette foule monde, Jésus a voulu regarder ailleurs, c'est un petit groupe qu'il a aperçu. Son âme, loin d'y trouver une consolation, a dû s'en désespérer davantage.